RMC, After Espagne,
Karine Galli.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre After Espagne. Chaque semaine, vous le savez, on revient sur l'actualité du football espagnol. À mes côtés, Rémi Dubon, comment ça va ?
Ça va et toi ? Salut Karine, bonne année !
Très belle année à toi, en pleine forme ?
Merci, ouais, bah ouais, en pleine forme, ouais. Toi, t'es un petit peu malade, je crois, mais bon.
Oui, mais ça fait 10 jours que ça dure, donc tout va bien. C'est une constante. Nous sommes avec Edgar Grolot, évidemment, notre correspondant qui vit sous le soleil espagnol. Quel homme chanceux, ça va Edgar ?
Eh oui !
Toi, t'es pas malade !
Salut Karine, salut Rémi.
Salut le
Ed. Il fait 10 degrés de plus ici, on n'a pas eu trop de neige. Il y en a eu un peu à Rétafé et tout, mais moi, j'en ai pas eu, malheureusement.
Jalousie totale. Messieurs, nous allons parler d'un homme aujourd'hui. Pourquoi ? Il y a plein de raisons, mais notamment parce que Rodrigo, c'est son anniversaire aujourd'hui.
Eh oui. On est 9 janvier.
On est le 9 janvier. Il a 25 ans aujourd'hui, l'ailier brésilien du Real Madrid. Alors, c'est son anniversaire, c'est très bien. On lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire. Mais il est évidemment au cœur des débats actuellement. On va parler du joueur et de ses deux saisons déjà en une parce que ça avait très mal commencé. Et puis, il y a eu une bascule à partir du mois de décembre. Rémi, c'est vrai que Rodrigo, qui était complètement laissé de côté, est redevenu un joueur très important. Et il y a vraiment une bascule à partir de ce mois de décembre où il est redevenu un joueur titulaire aux yeux de Xabi Alonso.
Ouais, parce qu'il a connu un début de saison compliqué, hein, pour rappel, et grosso modo sa saison c'est 23 matchs, 3 buts, 6 passes décisives, 311 minutes jouées cette saison, c'est le 12e joueur le plus utilisé de l'effectif, il est donc en dehors du 11 de départ, mais ça c'est pas vraiment nouveau depuis l'arrivée de Mbappé notamment, c'est pas des stats si décevantes que ça à l'instant où on se parle et en général, mais on va voir surtout qu'il y a un moment de bascule comme tu le disais, c'est fin décembre. Parce que avant le 10 décembre, Rodrigo, c'était quelques matchs joués, mais surtout zéro but marqué. Même si là, on a ses stats depuis son arrivée au Real Madrid en 2019 et avec un transfert à 45 millions d'euros depuis le Brésil, hein, 293 matchs joués, 71 buts, 57 passes décisives et 13 trophées avec le Real. Mais comme on le disait, surtout cette saison, il y a un avant et un après, puisqu'il a disputé 22 matchs. Cette saison avant le 10 décembre pour 0 but et seulement 2 petites passes décisives. En revanche, depuis le 10 décembre et notamment le match face à Manchester City en Ligue des Champions, c'est 6 matchs, toutes compétitions confondues, 3 buts et 4 passes décisives. C'est là où on s'aperçoit que il y a un vrai tournant et qu'il est redevenu décisif. Ça correspond aussi avec la blessure de Mbappé ces derniers temps et l'opportunité de jouer un peu plus.
On va reparler un petit peu de ce qui s'est passé. Tu l'as dit, Rémi, c'est un joueur qui arrive à l'été 2019, qui est sous contrat jusqu'en 2028. Il a connu beaucoup d'entraîneurs, Edgar, mais c'est vrai que l'histoire entre Xabi Alonso et le Brésilien avait plutôt mal commencé parce que Xabi Alonso arrive lors de la Coupe du Monde des clubs et à ce moment-là, il est très peu utilisé par l'entraîneur espagnol.
Oui, il est très peu utilisé par Xabi pendant la Coupe du Monde des clubs et la question, c'était un vrai sujet à ce moment-là dans l'actualité espagnole et la question avait été posée à Xabi Alonso qui avait dit non, je m'entends super bien avec lui, j'ai discuté avec lui, on nous racontait qu'ils étaient assez proches à l'entraînement mais en fait ça se voyait pas après en match et dans le temps de jeu qu'il avait. Faut comprendre aussi que Xabi Alonso est arrivé après plusieurs mois très très compliqués pour Rodrigo parce que la mauvaise passe de Rodrigo, elle a duré on va dire quasiment tout 2025 finalement jusqu'au dernier match de l'année quasiment, hein. On a vu, c'est vraiment sur la toute fin de décembre qu'il a retrouvé, on va dire, une partie de son niveau. Avec Xabi Alonso, il a rapidement compris qu'il n'allait pas être titulaire en début de saison. Il y a eu un jeune qui s'appelle Mastantuono qui est arrivé aussi et qui a eu énormément de temps de jeu tout de suite. Ça a été une surprise pour beaucoup d'observateurs. Et finalement, Rodrigo a aussi profité du fait que Mastantuono, lui, souffre d'une pubalgie. Donc, il a été moins régulier. Et donc, Rodrigo, petit à petit, a pu récupérer sa place dans le 11 titulaire. Et surtout, il a remontré le joueur qu'il était. Et je pense que Xabi Alonso, dans un moment où il a été en danger ces dernières semaines, évidemment, tu veux compter sur les cadors de l'équipe, sur ceux dont tu sais que le niveau maximum est peut-être le plus élevé. Et avec Rodrigo, il a trouvé quelqu'un qui l'a bien aidé à garder son poste ces dernières semaines. Qui l'eût cru quand on voit les premiers mois de la saison où il était remplaçant ?
Rodrigo a été en grande difficulté, tu l'as rappelé. C'est le cas aussi de Vinicius, mais évidemment, ils n'ont pas les mêmes statuts. Mais il y a des problèmes quand même chez certains joueurs. Rodrigo, depuis, il a vu son temps de jeu augmenté, hein, on le rappelle, sur les trois derniers matchs de Liga, il est titulaire. Hier soir, lors de cette demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético, il est titulaire, il est également buteur. Là, il est en train de vivre une période très importante et il profite aussi, on l'a dit, effectivement, des blessures et notamment du fait que Kylian Mbappé ne soit pas là. Donc, la question se pose pas, c'est on le met titulaire et il répond présent.
Il répond présent, il a marqué, il aurait même pu marquer un doublé hier parce que voilà, à un moment, il fait un joli dribble où malheureusement, il bute sur le gardien parce qu'il frappe du pied gauche alors qu'il aurait peut-être pu aussi la donner à Vinicius à ce moment-là. Après, quand tu disais que voilà, il y avait aussi des problèmes par rapport à Vinicius. Vinicius est vraiment depuis le Ballon d'Or, on sent que ses stats sont en chute libre quasiment. Après,
ce Rodrigo, non Ballon d'Or.
Ouais, voilà, exactement. Voilà, après,
il a eu du mal à le digérer et l'arrivée aussi de Mbappé. Enfin voilà.
Exactement. Il y a un cumul de tout ça qui fait que c'est compliqué pour Vinicius. Mais pour en revenir à Rodrigo, moi, il me fait penser. Et je voudrais avoir l'avis d'Edgar un petit peu, mais il me fait un peu penser au départ à le parallèle avec Marquinhos au PSG. C'est-à-dire que quand il arrive, bah voilà, c'est toujours le joueur qu'on utilise avec un fort potentiel auquel on croit, mais c'est celui qu'on va peut-être sortir en premier. C'est peut-être celui qu'on va faire jouer un peu à des postes qui sont pas les siens et qui au final montre son importance au fil du temps, parce que je me rappelle de la campagne avec notamment la victoire en 2022 en Ligue des Champions. Il est titulaire avec Karim Benzema et Vinicius justement devant, et je crois même qu'il est entre guillemets irréprochable. Personne ne peut le critiquer parce que voilà, il est au service de l'équipe, il est performant. Je me souviens d'ailleurs de son but contre Manchester City en demi-finale, son but de la tête là, qui permet justement au Real ensuite d'égaliser. Ça permettra au Real ensuite de gagner la Ligue des Champions. Mais j'ai l'impression vraiment qu'en termes de personnalité, c'est un joueur, c'est un vrai soldat. Sauf que bah voilà, comme il est peut-être moins clinquant que Vinicius ou Mbappé, bah c'est le premier qu'on sort, mon Ed.
Oui, et ça a souvent été un problème de statut, parce que souvenez-vous, quand Kylian Mbappé arrive au Real Madrid, on parle de la BMV. Qui était donc Bellingham, Mbappé, Vinicius. Et lui avait fait un post dans son canal WhatsApp à l'époque qui était « N'oubliez pas le R dans BMW ». Finalement, ils avaient supprimé. Ils avaient dit que c'était l'équipe de communication qui avait eu une communication un petit peu maladroite. Mais ça illustrait un vrai mal-être par rapport à cette sensation d'être toujours le premier à sortir pendant les matchs, comme tu as dit. Toujours le premier dont on changeait le poste aussi, parce que initialement son poste de prédilection, c'est quand même censé être le côté gauche, et ça fait des années qu'il joue côté droit. Il y avait en plus un parallèle avec sa situation en sélection brésilienne, parce que pendant longtemps c'était aussi le premier qu'on pouvait mettre dans l'axe, mettre à droite, mettre à gauche. Il n'avait pas vraiment de poste et on le baladait un petit peu de tous les côtés. Oui, c'est un couteau suisse, mais tous les joueurs ont leur préférence et lui, il avait l'impression d'être toujours le premier à payer. Et évidemment, c'est plus facile de sortir un Rodrigo qu'un Mbappé, qu'un Bellingham ou qu'un Vinicius Junior. Et il y a eu ce souci la saison passée. Et après ça, il y a eu vraiment un problème de niveau, tout simplement, qui fait que c'était même plus une question de statut. C'était tout simplement, Rodrigo n'était plus au niveau pour être titulaire au Real Madrid. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, je pense que très peu d'observateurs du Real Madrid ici en Espagne ne croyaient en un Rodrigo, on va dire, ressuscité aussi vite, aussi fort comme ça. Je suis le premier surpris, non pas de ses qualités techniques, mais de son niveau sur ces dernières semaines, parce qu'on voit un Rodrigo, je pense, qui joue beaucoup plus simple. Qui court un petit peu plus, qui fait les efforts, qui joue vraiment pour l'équipe et qui est plus vraiment dans la posture de celui qui a envie de prouver. Je pense qu'il avait une mauvaise tendance à toujours vouloir faire le dribble de trop, la touche de balle de trop, parce qu'il avait envie de prouver que c'était toujours ce grand joueur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a un petit peu épuré son jeu et ça se voit et il apporte énormément à l'équipe depuis quelques semaines.
Et puis, il y a eu des rumeurs aussi de départ de plus en plus importantes, hein, parce qu'on parlait de lui pendant un moment en Angleterre, à Manchester
Liverpool
City,
notamment.
Arsenal, Liverpool, et même pendant un moment au PSG. Donc, ouais, là, ça peut permettre aussi d'éteindre ces rumeurs-là, même s'il est sous contrat jusqu'en juin 2028, il y a encore un peu de temps, mais voilà, faut faire attention quand même avec les joueurs du Real, parce qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, de toute façon, ça fait polémique maintenant.
Par rapport à ce que vous disiez tous les deux, messieurs, c'est vrai que la polyvalence, c'est un atout, mais parfois, c'est aussi quand même une difficulté, parce qu'on vous balade un petit peu partout. C'était le cas de Rodrigo, on l'a vu jouer sur les deux côtés, on l'a vu jouer également en soutien d'attaquant. Le fait également qu'il soit à nouveau très important dans le travail défensif, ça, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a un problème d'équilibre au Real Madrid, on le sait, notamment depuis que Kylian Mbappé est arrivé. Lui ne rechigne pas, il y a cette capacité à récupérer beaucoup de ballons. Et le Real, pour aller loin, pour aller à nouveau gagner une Ligue des Champions, ça passera aussi par ça. Il faut que tout le monde défende. Et là, Rodrigo redonne cette image d'un coéquipier qui travaille pour l'équipe.
Oui, et on parlait de Maston Tonneau au début. Pourquoi Maston Tonneau jouait autant quand il arrivait? Parce que c'était une surprise. Et c'est vrai qu'offensivement, quand on regardait les matchs, on va dire comme un spectateur normal, comme un fan de foot qui regarde un match, bah, tu regardes celui qui a le ballon, tu regardes les phases offensives et tu dis mais comment c'est possible que Maston Tonneau soit autant titulaire? Et bon, je pense qu'il a été, peut-être, il a même eu plus de temps de jeu que ce qu'il aurait peut-être dû avoir. Mais la raison pour laquelle Xabi Alonso adore Maston Tonneau, c'est parce que défensivement, il est super important pour l'équilibre de cette équipe. Et je pense que Rodrigo a compris que son avenir avec le Real Madrid et sa place de titulaire dans ce 11-là se jouera aussi quand le Real Madrid n'a pas le ballon. Parce que Xabi Alonso répète ça depuis le début de saison. Et j'ai l'impression qu'il l'a compris, j'ai l'impression qu'il fait les efforts. Alors, ça a toujours été quelqu'un qui fait les efforts, mais ça a aussi été quelqu'un qui a envie, quelque part, d'être autant en lumière que les autres. Et ben, je pense que maintenant, il a pris un petit peu son mal en patience et il a compris qu'il va aussi, avant tout, falloir être de nouveau un joueur qui sert l'équipe. Et ça lui permettra, évidemment, d'avoir plus de temps de jeu et de marquer comme il en est capable, de faire des passes décisives comme il en est capable.
Il est bon le head parce qu'il lit dans les pensées et notamment celle de Xabi Alonso parce qu'on voulait vous montrer cette déclaration justement du coach espagnol du Real à propos justement de Rodrigo. Il dit c'est formidable de voir sa contribution face à City et à l'Aves. Il a été performant et a apporté de l'équilibre. Il possède un excellent contrôle de balle et assure la continuité du jeu. Il combine très bien entre les lignes et dans les petits espaces. Nous devons le solliciter davantage car nous voulons être plus réguliers. Il est très polyvalent, peut évoluer sur tous les postes de l'attaque. Alors quand il dit les postes de l'attaque, c'est évidemment aussi avec un rôle défensif, comme disait Edgar.
On rappelle qu'en Ligue des Champions, il y a eu 6 matchs qui ont été joués par le Real Madrid. Il a été 2 fois dans le 11 de départ. Il n'était même pas entré en jeu, notamment face à la Juventus et l'Olympiakos. Quel est vraiment le match bascule, selon vous, de ce mois de décembre qui fait que Rodrigo est redevenu un joueur sur lequel Xabi Alonso compte et sur lequel il y a beaucoup moins de débats? Parce que là, on parle de renaissance, de sourire, de renouveau. Ce sont des termes très forts. On a l'impression voilà, que ce qui s'est passé sur cette année 2020, est déjà enterré, alors que c'est quand même récent ce renouveau.
Bah, quand je vois son enchaînement des 2 derniers matchs en championnat, par exemple face au Betis et face au FC Séville, il a provoqué un penalty, il a fait des passes décisives, il a été très présent dans le jeu et je pense que ce sont le genre de performances qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps pour lui. Et je pense aussi qu'il a su profiter des absences aussi qu'il y a dans ce groupe. Et Xabi Alonso avait plus que jamais besoin de lui, on l'a dit, par rapport à sa situation, mais aussi par rapport aux nombreuses absences qu'il a pu avoir, aux joueurs qui n'étaient pas forcément à 100%. Et lui a montré que dans les moments difficiles, l'équipe pouvait compter sur lui. Comme par le passé, dans les saisons précédentes, il a pu montrer dans les grands matchs de Ligue des Champions que l'équipe pouvait compter sur lui. Dans les grands moments, il l'a remontré, il a remis ça dans la tête de tout le monde. Et je pense que c'était quasiment sa dernière chance pour lui, en fait. Parce que là, si c'était un moment où le coach avait besoin de lui, où tout le monde était blessé et il répondait pas présent, je pense que son histoire au Real Madrid, au bout d'un moment, aurait été très compliqué parce que le Real Madrid, ça pardonne une fois, ça pardonne 2 fois, mais tu peux pas être peu performant pendant des années et pas être au niveau et continuer à être titulaire. Donc je pense qu'il a choisi le bon moment, peut-être le dernier moment pour se réveiller et il a bien fait.
On rappelle qu'on est aussi dans une année de Coupe du Monde et que c'est très important pour lui avec sa sélection brésilienne où il y a aussi des difficultés. Par rapport au match de hier, il était très attendu. C'est lui qui offre la victoire. C'était un énorme test aussi parce qu'on sait que là, Xabi Alonso, il est quand même sur un fil. Il ne fallait absolument pas perdre ce match face à l'Atlético. Ça n'a pas été une prestation aboutie, mais il y a la victoire et on se dirige vers ce classique qu'on attendait tous entre le Real et le Barça. Donc hier, ça a été important, même si la prestation collectivement, de toute façon, du Real n'a pas été époustouflante.
Oui, mais dans cette prestation collective, on va dire assez poussive sur le plan offensif, je pense que Rodrigo a été l'un de ceux qui a joué le plus simple, le plus direct, sans furiture, qui a eu le moins de déchets. Vinicius Junior, par exemple, essaye tout le temps énormément, mais c'est sûr qu'il a beaucoup de déchets. Et je pense que le Real Madrid ne peut pas se permettre d'avoir 2 joueurs qui ont beaucoup de déchets devant. Et donc Rodrigo doit avoir cette responsabilité, cette maturité de jouer un petit peu plus simple. Et il le fait à la perfection, je trouve, ces dernières semaine. Il aurait pu, comme l'a dit Rémi, mettre un doublé. Il a eu une frappe un petit peu molle et c'est là aussi qu'il doit progresser. Il doit prendre l'exemple sur son compatriote Rafinha, par exemple, du côté du Barça, où à chaque fois qu'il tente quelque chose, t'as l'impression qu'il y croit à 100%. C'est pas toujours le cas avec Rodrigo. Je pense qu'il peut encore performer. Et puis, il profite aussi sur les 2 derniers matchs, je pense, du fait d'avoir un vrai numéro 9 devant. C'est pas pour dire qu'il joue moins bien avec Kylian Mbappé, mais forcément, quand t'as un vrai numéro 9 qui occupe la défense, qui reste en position d'avant-centre, ça ouvre les espaces pour pour les ailiers et ça donne encore plus d'importance à Vinicius et Rodrigo. Donc c'est, on va dire, une pièce qui peut l'aider aussi à prendre une bonne importance dans ce groupe et pouvoir montrer ses qualités, même si évidemment Kylian Mbappé va revenir rapidement et risque de jouer dès ce dimanche face au FC Barcelone.
Et la différence, je trouve, entre Rodrigo et Vinicius, c'est que Vinicius, il y a un côté un petit peu à chaque fois très polémique ou très tendu sur le terrain. Tu vois qu'à chaque fois qu'il a une faute qui tombe par terre, il essaye de gratter un coup franc, il proteste auprès de l'arbitre, il s'embrouille généralement avec ses adversaires. Là où Rodrigo, lui, est plutôt très calme, très lisse, justement, et il va se taire pour mieux revenir à chaque fois, je trouve.
Vous suivez l'After Espagne avec notamment un focus sur Rodrigo. Pourquoi ? Parce que c'est son anniversaire, mais aussi parce que c'est l'homme qui revient en forme et qui fait du bien au Real Madrid. On en parle avec Rémi Dumont et avec Edgar Grolot. Vous suivez l'After Espagne avec Edgar Grolot, notre correspondant en Espagne, et Rémi Dumont. Nous parlons notamment de Rodrigo qui retrouve son niveau, un niveau de performance très bon depuis quelques matchs. On parle évidemment de ce qui s'est passé également hier avec cette qualification pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. On le rappelle, l'affiche de rêve, ça sera donc le Barça face au Real Madrid, le Real qui s'en est sorti 2-1 face à l'Atlético. Et nous allons aussi parler, parce que tu parlais des polémiques. C'est vrai que hier, il y a eu encore une polémique. Elle ne concerne pas Rodrigo, mais elle concerne Vinicius. Est-ce que tu peux nous dire si tout est apaisé en Espagne ? Parce que c'est vrai que nous, vu de France, on a vu que Diego Simeone avait donné une version un petit peu minable de lui-même en taclant et en se moquant de Vinicius, en lui disant de toute façon Florentino Pérez, donc le big boss du Real Madrid, va finir par te virer. Est-ce que ça a pris des proportions dingues en Espagne ? Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on vit ça que comme du charriage entre adversaires ?
Non, ça a pris une belle proportion quand même, ça fait une petite polémique après le match. Maintenant, vu qu'il y a un classico dimanche, évidemment, on va vite passer à autre chose en Espagne. Mais c'est sûr que ça a fait réagir, et Xabi Alonso notamment a dit qu'il trouvait ça pas très fair play de la part de son homologue d'avoir dit ça. Il y en a d'autres que ça a fait rire. Bon, il l'a pas insulté non plus, mais c'est du vrai chambrage, on va dire. Et surtout, c'est surtout qu'on n'a pas l'habitude de voir un coach parler à un joueur adverse alors qu'il est en train de courir sur l'aile. D'habitude, c'est les joueurs entre eux, c'est les joueurs qui viennent chambrer Vinicius. Là, de voir Diego Simeone le faire, c'est vrai que c'était assez particulier.
Ah ouais, Cholo Simeone, on dirait un mec de district, tu sais, un entraîneur de district qui essaye de déconcentrer le meilleur joueur adverse. Et franchement, c'est là où tu vois que les joueurs de foot, c'est quand même des sacrés gamins, mais les entraîneurs, pour faire ça, en plus, il sait qu'il va être regardé, il sait que voilà, ça va chambrer, que derrière, il va y avoir des polémiques. Mais en même temps, je trouve ça plutôt marrant. Vaut mieux ça, je trouve, que plutôt des vraies insultes avec des noms d'oiseaux, tout ça. Là, c'est plutôt, on va dire, fin, même
bien
si
sûr.
Ça n'est pas vraiment.
Vous êtes sympa les gars, moi ça me sidère, c'est-à-dire que de voir un entraîneur qui a quand même une posture, qui représente un club, qui fait ça envers un joueur, c'est pas deux joueurs qui se chauffent sur le terrain,
vrai.
C'est deux positions qui sont différentes, comme ce qu'on a pu voir par exemple le week-end dernier entre Bruno Genesio qui veut aller s'en prendre à l'arbitre et qui est retenu par ses joueurs,
oui.
C'est un peu le monde à l'envers, normalement c'est quand même l'entraîneur qui a du recul par rapport aux joueurs et là c'est l'entraîneur qui va essayer d'engrainer un joueur, mais bon, c'était l'une des images de cette demi-finale. On a parlé de Rodrigo, il y a un homme qui était aussi attendu, alors on s'excite vite dans le football. Le week-end dernier, face au Betis Séville, il avait été fabuleux. Hein. C'était Gonzalo Garcia, auteur d'un triplé. Bon, hier, c'est redevenu un joueur qui doit grandir, qui doit apprendre, parce que sa prestation ne restera pas dans les annales. On est revenu sur terre tout doucement. Hein.
Oui, alors je pense que pour être un attaquant du Real Madrid et faire une prestation historique, quand tu vois la proposition offensive du Real Madrid face à l'Atlético, il fallait être le meilleur joueur de l'histoire, hein, parce que il y avait très peu de ballons à exploiter, il y avait surtout une tactique qui a été, bon, décevante pour le spectacle, mais intelligente, qui est de se dire, on mène face à l'Atlético, c'est pas à nous de faire le jeu, parce que l'Atlético, c'est tout ce qu'ils attendent, et donc ils ont laissé le ballon à l'Atlético, et l'Atlético a eu toutes les peines du monde à se montrer véritablement dangereux dans la surface de réparation. Donc ça, c'était pas l'avantage de Gonzalo Garcia offensivement. Par contre, défensivement, c'est quelqu'un qui fait les efforts, qui a permis avec les autres au groupe du Real Madrid de résister aux différentes attaques de l'Atlético. Donc ça, c'est quelque chose que Xabi Alonso apprécie. Je pense que la raison pour laquelle les gens s'enflamment autour de lui, c'est parce que c'est un profil qu'il n'y a pas au sein de l'effectif du Real Madrid, c'est-à-dire un neuf classique, un pur neuf qui va jouer en pivot, qui va rester vraiment à son poste, qui va pouvoir ouvrir des espaces pour les autres, qui va pouvoir se jeter devant le but, faire des têtes, etc. etc. Maintenant, il y a une raison pour laquelle aussi il n'avait pas été beaucoup plus titulaire tout au long de la saison. Alors la première raison, évidemment, c'est Kylian Mbappé, je vous le cache pas, mais c'est aussi parce que c'est un joueur qui a très peu de matchs en pro, qui a fait des entrées qui étaient beaucoup moins, on va dire, tranchantes que son match face au Betis aussi. Que c'est quelqu'un, ça se voit, qui fonctionne toujours beaucoup à la confiance, et c'est complètement normal. Il y a des matchs où tu sens qu'il n'est pas en confiance et tu retrouves un petit peu le joueur qui jouait en 3ème division l'année dernière, c'est-à-dire un joueur qui était extrêmement performant. C'était le meilleur buteur hein, de 3ème division, 25 buts pour lui, devant Eta et Young d'ailleurs. Donc, il y a eu, voilà, on va dire, une belle année pour la 3ème division. Mais c'est un joueur qui manque encore d'expérience et qui va toujours devoir encore devoir progresser pour être vraiment régulier et qui, pour l'instant, je pense, est toujours loin d'avoir les épaules pour être performant au plus haut niveau tous les week-ends en tant que titulaire au Real Madrid. Mais ça peut venir très très vite avec l'expérience du très haut niveau qui vient rapidement à cet âge-là.
Même s'il ne faut pas oublier que pour la Coupe du Monde des clubs, Gonzalo Garcia avait répondu présent. Et puis même, lors de son dernier match face au Betis, je crois, il fait triplé. Donc ça montre aussi que voilà, quand on va dire les chats ne sont pas là, bah, lui, il danse, il arrive aussi à tirer son épingle.
Il prend pour une souris, donc.
Ouais, voilà, une petite souris, il passe par les trous de souris. Mais par rapport à ça, voilà, il répond quand même présent. C'est aussi ça la faculté, je trouve, de certains joueurs du Real, les non vraiment titulaires, qui, quand ils sont amenés à jouer, répondent présent. Et d'ailleurs, on voulait vous montrer, parce que Gonzalo Garcia, lui, il a eu la chance d'évoluer au poste de numéro 9, ce qui n'est pas le cas malheureusement de Rodrigo. On a regardé depuis qu'il est au Real, il a quand même joué 149 matchs ailier droit, 76 fois en tant qu'attaquant, donc axial, et 59 fois milieu ailier gauche, ce qui montre aussi à quel point il peut être baladé en fonction aussi des coéquipiers qu'il a. Je pense notamment à Vinicius, évidemment, avec Mbappé depuis deux saisons maintenant, et puis aussi Bellingham, hein, parce que quand il est arrivé, il avait un rôle, même si ça jouait plutôt en la faveur de Rodrigo, un rôle de 8-9,5, de 10, 9,5 pour Bellingham, voilà, qui permettait de jouer à 3 quand même devant selon les phases de jeu.
Messieurs, on va se projeter sur cette finale qui arrive dimanche, on le rappelle, donc le FC Barcelone face au Real Madrid, c'est la finale de la Supercoupe d'Espagne, c'est un match très attendu. L'an dernier, deux finales ont été perdues par le Real Madrid. Edgar, il y a une pression énorme, tu nous en as parlé, hein. Kylian Mbappé est arrivé normalement en Arabie Saoudite, donc il pourrait jouer, c'est la surprise, parce que normalement il était encore blessé, mais a priori il pourrait jouer. Le Real Madrid qui va avoir fort à faire. Le Barça a pu faire reposer ses cadres. Il y en a qui sont rentrés en seconde période. Ils ont eu un jour de plus de repos. Ils se sont baladés face à l'Athletic Bilbao. Ça va être très compliqué dimanche. Il faudra qu'ils s'accrochent quoi au match de championnat qu'ils ont gagné sur la première partie de saison.
Oui, forcément, il va falloir s'accrocher à ça, mais en même temps se dire qu'il y avait beaucoup d'absents du côté du FC Barcelone et que le FC Barcelone qu'ils vont affronter ce dimanche va sûrement être beaucoup, beaucoup plus fort que le FC Barcelone qu'ils avaient battu en championnat. Pour Kylian Mbappé, c'est à double tranchant ce retour, parce que c'est le statut de très, très grande star du foot mondial qui veut ça. S'il avait été absent, tout le monde aurait dit « voilà, il n'est pas là dans les moments importants ». Maintenant qu'il est là, si jamais le Real Madrid perd, tout le monde va dire que c'est en partie de sa faute. Et évidemment, quand tu as la responsabilité d'être le leader d'une équipe, si ton équipe ne gagne pas, c'est normal aussi d'être critiqué. Sur Kylian Mbappé, alors lui, il est resté toute la semaine à Valdebebas. Il a travaillé avec notamment deux membres du staff qui étaient restés spécifiquement pour l'aider. On nous dit qu'il a de très bonnes sensations. Donc, à voir s'il peut être titulaire, c'est plutôt ça la question. Parce que s'il voyage en Arabie Saoudite, évidemment, c'est qu'il y a l'idée de le faire jouer. Il s'est entraîné ce vendredi, encore une fois, seul à Valdebebas. Il a pris l'avion, ou il prend l'avion au moment où on enregistre ce podcast pour l'Arabie Saoudite. Et donc, ce samedi, il va faire son premier entraînement collectif. Donc, il aura seulement un entraînement collectif dans les jambes. À voir, encore une fois, à quel niveau il peut participer à ce match. Et encore une fois, c'est à double tranchant pour lui, parce que s'il n'est pas performant ou que le Real Madrid perd face au FC Barcelone, il va y avoir des gens qui vont dire que le Real Madrid joue mieux avec Gonzalo Garcia, qu'il n'est pas là pour faire gagner l'équipe. Donc il y a énormément de pression sur le Real Madrid, sur Xabi Alonso qui joue une partie de son avenir aussi, et avant tout sur Kylian Mbappé, je pense.
Attention, hein, parce qu'il y a une Coupe du Monde, évidemment, comme tout le monde le sait, en fin de saison. Donc, avec les organismes et surtout le genou de Kylian Mbappé, il faudra faire attention à ce que ça ne s'aggrave pas, qu'il ne reprenne pas plus vite que prévu non plus, même si on peut faire confiance au staff médical du Real Madrid. Et puis, revenir aussi sur le premier classico qu'il y a eu cette saison, où il y avait eu un pénalty accordé et finalement retiré à Mbappé. Un but pareil, magnifique, la reprise de volée là, de 20-25 mètres, là, finalement retiré. Il avait quand même marqué et participé à la victoire du Real face au Barça.
La première d'ailleurs, parce qu'il n'avait encore jamais battu exactement, le Barça depuis son arrivée.
On en avait parlé dans ce podcast. Donc voilà, voir comment Mbappé se sentira, même si je pense que, et là je parle sous le contrôle de Edgar, mais si Mbappé est apte, il jouera, ils ne vont pas forcément le préserver en le mettant remplaçant.
Oui, et il y a quelque chose que j'ai vite compris depuis un an et demi, c'est que Kylian Mbappé a toujours envie de jouer. Il a toujours envie de jouer, et même quand il avait déjà des petits pépins, parce qu'il en a eu quand même un certain nombre hein, depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, à chaque fois, il a voulu revenir le plus vite possible, il a fait tous les efforts possibles pour revenir le plus vite possible, comme il l'a fait là, parce que ils ont, on va dire, amoindri le temps qu'on estimait pour cette blessure. Alors après, le Real Madrid a toujours tendance à communiquer, on va dire, si ça va être 2 ou 3 semaines de blessure, ils vont dire ça va être 3 semaines. Parce que ça leur permet ensuite d'avoir que des bonnes surprises et pas d'avoir des gens qui se demandent pourquoi un tel est blessé une semaine de plus que ce qui avait été annoncé. Donc c'est toujours à prendre en compte avec le Real Madrid. C'est pour ça qu'il y a très très souvent des joueurs qui reviennent un petit peu plus tôt que prévu. Mais Kylian Mbappé, s'il peut jouer même à 90%, il va jouer ce match et je pense qu'il sera titulaire parce qu'il aura évidemment envie de remporter ce trophée avec le Real Madrid.
Le Real Madrid, Kylian Mbappé, Xabi Alonso, mais aussi Rodrigo, ils sont tous attendus évidemment dimanche soir pour cette finale de Supercoupe d'Espagne, un nouveau classico entre le Barça et le Real Madrid. Merci beaucoup messieurs, merci Edgar en Espagne, merci beaucoup Rémi. Et puis vous le savez, si vous aimez nos podcasts, vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'oubliez pas de donner une note et de mettre un commentaire. À très vite pour un nouveau podcast.
RMC After Espagne.